Il me dit quelque chose dans mon micro et dans mon écouteur, pardon. Si nous avons un tweet, il va me le dire. Nous avons un compte Twitter spécial, @ACSO, pardon, ou non? Ah non, pardon, SOAC, c'est ça. Voilà. Et ceux qui le voudront pourront participer avec leur connexion par Adobe Connect et ils pourront enfin faire des interrogations au moyen de la salle de chat. Nous vous demandons de faire des commentaires pour les questions aussi courts que possible, comme si c'était un tweet, même si vous servez de la salle de chat d'Adobe. Vous pouvez le faire donc par le compte Twitter ou la salle de chat. Nous aurons bien sûr plus de commentaires et des questions que ceux qui sont possibles pour le temps qui nous a été attribué. Tout cela fera partie des enregistrements publics. Nous avons vu pendant la réunion de Buenos Aires qu'il y a eu beaucoup de tweets pendant la réunion, des questions et des réponses, et nous pensons que c'est très positif. Mais nous voulons que tout ceci fonctionne comme il faut. Donc notre expérience d'aujourd'hui, qui peut être bonne ou pas tellement bonne, nous vous demandons de nous dire ce qui a été positif et ce qui ne l'a pas été, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas donné de bons résultats. Donc, lorsque vous verrez parler les membres du panel, vous verrez sur l'écran. Et vous avez bien sûr un petit panneau qui indique à quelle organisation ils appartiennent. Nous allons commencer la première partie de la réunion, ce que chacun des membres du panel a à nous dire. Je vais donc poser la première question. Quelle devrait être la principale priorité dans l'organisation de l'ICANN par rapport à ce qu'est la nouvelle série de candidatures pour les nouveaux JTLD? Et nous allons commencer par Rafik. Je vais vous demander d'être bref. Je serai donc le premier, c'est Rafik Damak qui prend la parole. Je viens du secteur non commercial, pour ainsi dire. Et l'idée est d'évaluer la première question avant de passer à la deuxième. Donc on va évaluer, s'il y a eu un succès, on va évaluer les points positifs et les points négatifs. Et ainsi que tout ce qui concerne le soutien aux pays en voie de développement, surtout pour améliorer notre diffusion lors de la deuxième étape, série, pardon. Maintenant, c'est Kate Drysdak qui prend la parole du groupe des parties prenantes des registres. Je crois qu'il y a différentes révisions de la première série ou de la série actuelle de GTLD qui doivent être faites avant d'entamer la prochaine ou les prochaines séries. Il y a des membres de révision de l'ASO qui concernent le choix des consommateurs, une révision qui concerne le GAC, que le GAC a demandé. Je crois donc que si on laisse de côté les demandes formelles de révision, la communauté doit s'écarter un tout petit peu et considérer cette série pour voir si elle a répondu aux attentes, pour voir quel est le marché réel pour les GTLD, et il faut mieux informer les candidats sur leurs obligations, leurs responsabilités et la capacité sur le marché. Maintenant, c'est Heather qui prend la parole, Heather Dryden. Mais, Lynn qui reprend la parole. C'est Heather Dryden qui prend la parole. Je crois que les révisions sont une étape importante pour établir ce qu'il faut modifier ou ajuster et ce qui fonctionne de manière appropriée dans cette série qui est en cours. Pour configurer tout programme dans l'avenir sur la base des leçons tirées sur cette série et les séries qui nous ont précédées. Je suis d'accord pour dire que cela doit être fait avant de commencer une nouvelle série. Et il faut prendre l'occasion de faire cela et faire les ajustements nécessaires. Je suis d'accord sur le fait que c'était aussi important de se mettre d'accord sur les objectifs de la série précédente. Sur les thèmes où il y a eu des débats, concerné, il y a eu des débats parce qu'il y avait différentes opinions sur ce qu'il fallait faire. Si nous pouvons nous mettre d'accord pour les séries à venir, je crois que cela va être beaucoup plus facile pour nous d'aller et de progresser avec sur ce programme et pour le suivre, pour voir s'il répond à nos attentes. Maintenant, c'est Patrick Fallström qui prend la parole du SSAC. Au lieu de répéter ce que nous devrions faire, je vais dire ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Nous avons identifié au sein du SSAC, nous avons fait quelques recommandations pour la série actuelle et ce que nous présentons pendant cette réunion, une révision non seulement de la série mais aussi de notre propre travail pour voir si nos recommandations ont été efficaces pour pouvoir ainsi présenter de nouvelles recommandations sur ce qu'il faut ajuster, ce qu'il faut corriger. Et c'est un travail ardu, parce qu'il y a bien sûr beaucoup de corrections qui ont été apportées en ce qui concerne la stabilité et la sécurité, depuis que l'on a créé le guide du candidat. Alors je pense que la révision est importante, non seulement pour le faire de façon générale sur le système, mais aussi sur la manière dont les recommandations actuelles ont été mises en œuvre et comment elles ont été réalisées dans toute la série en général et dans la perspective du SSAC pour voir s'il faut faire autrement les choses. Bonjour à tous, je m'appelle Peter Nettlefold, je me présente, je travaille au GAC, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais l'une des priorités c'est de clore cette première série et en faire une révision avant d'en entamer une deuxième. Au sein du GAC, nous avons commencé à considérer certains thèmes que nous avons identifiés lors de la première série et des thèmes sur lesquels le GAC va se centrer, dont les extensions géographiques, les processus des candidatures communautaires et tout ce qui concerne le soutien financier aux candidats. Il y aura aussi une séance spécifique du GAC sur les extensions géographiques qui aura lieu à 9h15 de mercredi. Je sais que le Brad White prend la parole. Merci, Peter Steve. Avant que tu commences, je sais qu'on a récupéré le réseau. Les gens, bien des fois, ne savent pas ce que signifie GAC ou quoi que ce soit. Donc, soyez gentils, expliquez ce que chaque sigle signifie. Steve Delbianco prend la parole. Bon, merci, Brad. Il y a eu une politique en 2008 de l'organisation de soutien au nom qui a ouvert la porte pour l'expansion de nouveaux GTLD. Mais depuis ce moment-là, l'ICANN a pris deux engagements importants. Le premier concerne l'affirmation d'engagement. Et puis, il y a eu, dans notre groupe, celui des parties prenantes commerciales qui a créé des indicateurs pour pouvoir savoir si l'on peut choisir si l'on peut éviter, augmenter la concurrence, etc. Tout cela concernait un point central concernant la protection des droits. Ces révisions vont suggérer des changements dans les processus des candidatures ainsi que pour les processus d'objection pour les prochaines séries. Cela concerne aussi les processus de développement de politique. Nous ne pourrons pas entamer un nouveau processus de développement politique avant d'avoir fini toutes ces révisions. Je sais que les candidats vont faire pression, vont exercer une pression parce qu'ils veulent passer à la prochaine série, mais l'ICANN a des engagements qu'elle doit honorer d'abord. Et cela se rapporte aussi à, disons, la protection et le service de l'intérêt public. Merci, Brad. Je m'appelle Tijani Benjamin. Je suis d'accord sur tout ce qui a été dit sur cette évaluation de la première série avant de lancer la deuxième série. Il me semble que nous n'avons pas à attendre la fin de l'évaluation pour pouvoir savoir qu'il y a eu des grandes failles qui concernent l'inclusion des candidats des économies en développement et des communautés les plus pauvres. Lorsque la première série a été préparée, nous avons toujours dit que les redevances étaient très élevées, les honoraires étaient très élevés, et que les économies en développement et les économies les plus démunies allaient devoir attendre les prochaines séries pour que l'on puisse avoir un retour sur le coût, parce que nous avions dit que nous allions récupérer le coût de ce programme. On a établi un calcul sur la base de 500 candidats et nous en avons eu 2000. Je ne pense pas donc que quelqu'un puisse dire maintenant que nous avons besoin de récupérer le montant du coût. Que pouvons-nous faire donc pour les candidats des économies en développement et des économies les plus démunies? Nous devons leur donner l'occasion de participer à ce programme. Nous devons leur donner l'occasion, ou disons le privilège. Cela peut se faire, par exemple, en consacrant la prochaine série à ces candidats, tout en sachant que les honoraires, les redevances seront d'un très faible montant parce que nous n'avons plus besoin de récupérer le coût du programme, le montant du coût du programme. Et cela ne concerne pas que les redevances et les honoraires, mais avec toutes les mesures qu'il faut préparer pour cette nouvelle série, pour ne pas avoir à faire face au même échec auquel nous avons dû faire face pendant cette première série. Holly Reich prend la parole. Je vais parler très brièvement. Je soutiens cette révision et le report du processus. La première concerne les engagements sur l'intérêt public. C'est une déclaration qui doit être faite par le candidat qui doit dire qu'il va faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. On a demandé cela lors de la dernière réunion du conseil d'administration. On nous a dit que cela pouvait être mis en œuvre. Et ce n'est pas le cas. La deuxième question, c'est qu'il n'y a eu que 3 candidatures de pays en développement et aucune de ces candidatures n'a réussi. Il faut voir ce qu'il faut faire et il faut le faire. Bonjour, je m'appelle Olivier Crépin-Leblond. Je fais partie de l'Oralo. Je crois qu'on a beaucoup dit et je ne vais pas tout répéter de ce qui a été dit, mais je vais donner mon soutien à certaines choses que l'on a dit. Steve Del Bianco a parlé de l'évaluation de certains indicateurs et c'est quelque chose de très important. Il faut faire cette révision. C'est l'une des choses qui, si elle n'était pas faite, ce n'est pas intéressant. Ça ne vaut pas la peine d'avoir une deuxième série si nous ne savons pas si la première a répondu aux attentes. Quant aux candidatures communautaires, cette série actuelle fonctionne pour ceux qui ont une bonne... un bon sac d'argent, une bonne poche. Et cela ne va pas dans le bon sens. Nous sommes une organisation d'intérêt public et cela ne va pas dans le sens de l'intérêt public. Le troisième point concerne bien sûr les économies en développement. Bien sûr, les poches les plus grandes ne sont pas dans ces économies-là et ce déséquilibre doit être, modifié. Parce qu'autrement, les gens diront que l'ICANN fonctionne comme une organisation pour maintenir le premier monde comme responsable de tout et à la direction de tout. Merci beaucoup. Je m'appelle Léon Sanchez. Je travaille pour l'ACRALO. Bien sûr, je suis d'accord avec mes collègues. Je soutiens ce qu'ils viennent de dire. Et je voudrais ajouter que l'ICANN, évidemment, a commis quelques erreurs et il faut qu'elle s'en remette aux commentaires de la communauté pour les inclure dans le nouveau guide du candidat avec des questions sur les extensions géographiques, la propriété intellectuelle, les ONG, les OING. Il y a plusieurs problèmes qui se présentent et l'on pourrait peut-être élargir la question de la révision au centre d'échange d'informations sur les marques. Parce que nous avons besoin de voir ces communautés qui n'ont pas une grande représentation parmi nous aujourd'hui. Il ne faut pas que tout soit basé sur notre capacité financière ou sur le besoin impérieux de rentrer ou pas sur l'Internet. Merci beaucoup. Je m'appelle Evan Levovitch. Je suis le président du groupe des nouveaux GTLD d'Atlarge. Ça a été toute une histoire avec cela. La secrétaire du commerce a fait des commentaires très importants sur l'Internet dans le monde en développement, si l'on tient compte du nombre des milliers de volontaires qui ont participé à cet effort qui a été fait et qu'il y a eu des échecs parmi les candidatures présentées. Il faudrait que nous considérions une solution à ce problème dans les plus brefs délais. De la même façon, le rejet qui a été fait à la candidature de la communauté point gay marque un point très important sur la crédibilité de l'ICANN. Il faut que nous tenions compte des engagements d'intérêt public parce que il n'y a pas pour le moment moyen de les appliquer, ces engagements d'intérêt public. Alors, lorsque le nouveau fonctionnaire commencera son travail, il n'aura pas grand-chose à faire là-dessus. Quant à la prochaine série, je pense que, en ce qui me concerne, d'après ce que j'ai entendu de la communauté, nous avons besoin d'une série de remédiations ou de ressources. Il faut se centrer sur la communauté et sur les ressources. Et nous devons nous centrer sur les candidatures venant du monde en développement. Bien, maintenant, je m'appelle Michael Nylon. Je viens du groupe des parties prenantes des bureaux d'enregistrement. À partir de cette première série, nous avons eu beaucoup de difficultés, beaucoup de débats pour pouvoir déboucher sur cette première série. On a établi beaucoup d'hypothèses qui ont été quelques-unes positives et d'autres négatives. Je crois qu'il faut regarder vers le passé et voir si les hypothèses se sont vérifiées ou pas, ou s'il ne s'agissait que d'incertitudes, de craintes. Et si nous allons prendre des décisions politiques de l'ICANN, au sein de l'ICANN, et cela doit être fait sur les faits et non pas sur les hypothèses ou sur les rumeurs ou sur les incertitudes ou les doutes ou les craintes. Beaucoup d'entre vous, enfin bon nombre d'entre vous, ont mentionné la question des pays sous-développés, comment ils pourraient accéder au programme des nouveaux GTLD et au financement. Je crois que cela doit montrer l'incapacité de l'ICANN pour faire un travail approprié en ce qui concerne la connaissance des nouveaux GTLD par tout le monde, partout dans le monde. Je pense que c'est quelque chose aussi qui est relié à l'acceptation universelle. Il semblerait que cela ne soit lié qu'aux IDN. Autrement dit, cela signifie que le TLD IDN va, l'utilisation des TLD IDN va au-delà de l'utilisation de caractères latins. Il faut inclure d'autres caractères qui peuvent être des textes, enfin des écritures arabes, chinoises, etc. Mais l'acceptation signifie que tout le monde doit pouvoir utiliser des adresses e-mail avec les nouveaux TLD. Il se peut que cela devrait permettre de créer facilement un lien à d'autres types de ressources. Et cette acceptation universelle n'est pas un fait à l'heure actuelle. Il y a certains TLD qui soutiennent cela. Ils ne font pas tout la même chose pour les candidatures en ligne. J'ai entendu dire à des amis et des collègues que si l'on veut avoir une adresse email sur une TLD, cela ne fonctionne pas. Donc c'est quelque chose de pratique, c'est facile, c'est simple, cela doit être abordé et cela va au-delà du .com. Tu m'excuses, Kate, parce que les TLD, ça peut être beaucoup plus qu'un .com. On peut utiliser les domaines de premier niveau pour donner aux communautés différents types de contenus en ligne pour que les gens puissent y accéder. Moi, évidemment, je ne serai pas d'accord pour nous servir de la prochaine série comme une série de remédiation. Il y a des occasions que nous avons manquées pendant la première série et nous pouvons les avoir maintenant. Les mécanismes de révision, les sauvegardes doivent être considérés sous le jour de la réalité, non pas sous les craintes et les hypothèses précédentes. Merci Brad. Je m'appelle Louis Lee. Je suis le président de... Je préside le conseil de l'organisation de soutien à l'adressage. Nous ne participons pas de manière directe au processus de nouveau GTLD, mais en tant que membre de la communauté individuelle, à titre individuel, nous participons en tant que cela est possible. Je dois dire que les membres des TLD viennent participer à nos réunions, les les opérateurs de registre, les registres d'Internet régionaux participent aussi à nos réunions. Nous avons eu des problèmes où les registres, le bureau d'enregistrement peuvent avoir des problèmes pour avoir suffisamment d'espace dans les rédactions. Par suite de la rédaction des politiques, ces politiques-là ont été reformulées pour qu'elles soient plus utiles et pour que les adresses soient disponibles lorsque vous en aurez besoin, lorsque les GTLD s'élargiront, seront plus nombreux. Je m'appelle Lars Johan Lehmann, je suis l'un des deux coprésidents du comité consultatif sur les systèmes des serveurs Racine RSSAC. Nous avons un centre d'intérêt très limité concernant la sécurité, la stabilité, la résilience du processus des systèmes de serveurs Racine. Tout ce qui concerne la génération, la création des archives, des données de la ZOM et jusqu'à ce que l'on publie sur l'interface et nos serveurs Internet. Par rapport au programme des GTLD, nous travaillons sur l'étude d'extensibilité de la racine et sur la préparation de la prochaine série des délégations des GTLD. Nous voudrions prendre le temps pour voir les différentes propriétés ou caractéristiques ou d'indicateurs qui ont été enfin débattus pour nous assurer que cela fonctionnera comme il faut. Tout fonctionne comme il faut, enfin comme nous le savons, mais nous voulons de toute façon faire un contrôle, une vérification pour nous assurer de voir que nous avons les indicateurs tels qu'ils avaient été prévus. Je ne vois pas de motif d'inquiétude, mais c'est quelque chose dont nous devons tenir compte lorsque nous aborderons une nouvelle série. Merci beaucoup. Brad White prend la parole. Nous n'avons pas encore le système Wi-Fi. On travaille pour pouvoir travailler là-dessus. Nous avons des micros dans les couloirs, là. Nous ne sommes pas sur un forum public, donc si vous avez des doutes, vous pouvez lever la main et nous vous donnerons un micro. J'ai une question pour Patrick. Lorsque le programme des nouveaux GTLD a commencé avant la première délégation, les soucis étaient très accentués sur la question de la sécurité. Avant cette prochaine série, quelles questions devraient être résolues pour le SSAC? Patrick Falstrom prend la parole. Nous ne savons pas pour le moment, je ne peux pas dire oui ou non, parce que l'une des choses que nous faisons en ce moment, je l'ai peut-être dit un peu trop vite, mais l'une des choses que nous faisons est un nouveau contrôle des documents que nous rédigeons et de tous les avis que nous avons donné ou toutes les recommandations que nous avons faites depuis le SSAC, depuis le début de la série actuelle des nouveaux GTLD. Nous avons revu les recommandations que nous avons faites et nous essayons de voir pourquoi nous les avions rédigées et nous essayons de les appliquer. Nous voulons voir aussi quels sont les motifs, les raisons de la situation actuelle par contraste avec les circonstances de l'époque où nous avons rédigé ces recommandations. Nous voulons voir aussi si ces recommandations proposées ont eu l'effet qu'elles pouvaient avoir d'après ce que nous imaginions et voir si les corrections qui devaient être apportées, à notre avis, sont encore nécessaires, s'il faut encore appliquer cette recommandation ou si peut-être une recommandation n'était pas suffisamment claire ou n'a pas eu l'effet que nous escomptions. Bien sûr, tout cela concerne le centre d'échange d'informations sur les marques, avec la collision sur l'espace de nom de domaine, ainsi que d'autres thèmes qui ont été mentionnés. Par rapport à l'acceptation universelle, il y a un autre document concernant ce thème, un avis que nous n'avons pas encore publié, mais suivant notre calendrier sur la fin de cette année, nous serions prêts à publier cette recommandation. Maintenant, c'est Keith Drazy qui prend la parole. Je ne répondrai pas aux questions concernant la sécurité, mais je veux parler surtout du fait que les révisions sont nécessaires et qu'elles prendront du temps. Il n'est pas trop tôt pour commencer à recueillir de l'information, voir quels sont les problèmes, les soucis et les possibles corrections qui peuvent être apportées. Il y a du travail qui peut commencer à être fait et qu'il faut commencer à faire. Je peux dire que dans notre groupe, des parties prenantes, des opérateurs de registre Et dans le groupe NTAG, le groupe des nouveaux GTLD, on travaille pour essayer de tenir compte de tous ces soucis et les documenter, voir les améliorations possibles et avoir une liste aussi exhaustive que possible pour avoir pour discuter et voir des possibles recommandations pour ces révisions, ainsi que de recueillir des données qui puissent servir pour le travail de l'équipe de révision qui s'occupe des thèmes concernant la protection et la confiance et au choix des consommateurs. Il y a probablement trois catégories pour lesquelles nous pouvons dire qu'il est encore un tout petit peu prématuré de commencer à penser pour lancer une nouvelle série. D'une part, le modèle de récupération de coûts qui a été conçu, pensé à 500 candidatures de GTLD, cela a été multiplié par 4. Donc si nous avons ce modèle de récupération, de recouvrement des coûts, comment savons-nous qu'il peut être les honoraires ou les redevances correctes? Si on a eu un excès de fonds, comment pouvons-nous imaginer quel est le niveau des honoraires ou des redevances pour la prochaine série? Il y a une question qui concerne le budget et les revenus de l'ICANN. Par la collecte des fonds et des candidatures pour ces programmes, il se peut que l'ICANN ait un excès de fonds. Alors, comment pouvons-nous déterminer quel doit être le budget approprié pour que l'ICANN joue son rôle de coordination et qu'elle respecte son mandat technique plus limité? Autrement dit, quel devrait être le niveau budgétaire optimal de l'ICANN? Et il faudrait que nous voyions ensuite quels sont les honoraires ou les redevances pour les candidatures, mais aussi les honoraires ou les redevances concernant les bureaux d'enregistrement et les registres par domaine. Il se peut que ce soit un peu prématuré que de faire cette évaluation maintenant. Je devrais aussi dire ou souligner que l'ICANN a établi une administration avec suffisamment de personnel pour gérer ce programme des nouveaux GTLD. Un indicateur est que le fonctionnement de tout ceci est très bon pour tous ces domaines. Nous ne voulons pas perdre cette expérience qui a été acquise. Cela, si nous devons attendre 4 ans, il faut que nous le sachions. C'est un défi que nous devons examiner et relever. Pour résumer, ce programme des nouveaux GTLD a été l'expansion la plus grande du DNS, ou au moins de l'espace des noms qui ait pu être vu. Nous avons eu une grande croissance, mais nous devons faire face à certains problèmes. Et la question est de savoir comment gérons-nous tout cela, comment faisons-nous les ajustements, comment améliorons-nous notre approche. Brad White prend la parole. Je crois que Steve Del Bianco a un commentaire et puis nous prendrons une question de Twitter. Steve Del Bianco prend la parole. Merci. Dans le domaine politique de l'ICANN, il semble bien qu'il y ait beaucoup de tendances qui essaient de polariser les opinions. Il y en a qui disent « commencez maintenant » et d'autres qui disent « non, attendez ». Nous devrions voir qu'il y a cette vision politique et rien n'est aussi simple que cela semble l'être. Cette révision est très fortement liée à l'organisation de l'ICANN. Il s'agit de l'ICANN qui doit faire une reddition des comptes et qui doit être responsable devant le monde qu'il observe. Nous devons faire des révisions sans délai, mais il y a certaines choses qui peuvent être entamées dès maintenant et d'autres, il faut attendre pour les faire. Il faut voir les références positives et négatives avec tous les éléments d'évaluation des candidatures et les processus d'objection. Je sais que nous essayons de l'oublier, mais c'est un processus qui nous a permis de tirer de très nombreuses leçons. Dans le groupe de discussion, il faut faire des contributions dans l'immédiat avec toutes les idées possibles. Et il y a eu des bureaux d'enregistrement qui ont fait leur travail en ce sens-là. Je sais que le personnel de l'ICANN a commencé sa propre analyse. Et c'est une révision de l'efficacité et de l'équité des processus qui sont établis pour voir si ces mécanismes fonctionnent comme il le faut. Il faudrait que cela guide le personnel pour établir les systèmes nécessaires et les modifications nécessaires pour les prochaines séries. Mais il faut faire une pause et réfléchir aux résultats de cette documentation ainsi que sur le résultat de la révision et de l'analyse du personnel. Il faut présenter ça au GNSO pour le développement des politiques avant que cela représente des modifications dans le système. Nous allons finir un expériment tout neuf du système de tir numérique. Maintenant, je cède la parole à Olivier. Nous parlons de calendrier. Le prochain série, il y en a beaucoup qui veulent l'avoir très vite et d'autres qui veulent le reporter. Quand est-ce, il faut se demander si c'est trop tôt ou trop tard. L'une des choses qu'il faut éviter, c'est d'établir des attentes qui nous fassent penser que nous allons avoir une série précoce et qu'il y aura ensuite des retards, comme cela s'est passé avec la première série. Il y aura des petites organisations ou des candidats, des petits candidats qui vont continuer pendant les années essayer de maintenir leur affaire sans avoir un produit réel qu'ils pourraient lancer. Ce n'est pas juste pour les candidats, ce n'est pas juste pour la communauté non plus. Bon nombre de ces candidats sont des candidats des petites communautés qui ont des budgets très limités, qui ne leur permettent pas de maintenir un effort aussi grand pendant si longtemps. Alors, lorsque nous parlons de délai et lorsque nous parlons du lancement de la nouvelle série, il faut que nous respections ces délais, ces temps-là. Il ne faut pas que nous soyons dans une position où le conseil d'administration devra voter par la pression qui est exercée pour lancer le programme. Il faut que nous nous assurions qu'il n'y ait pas autant de brèches à combler. Brad Brady, est-ce que tu dis qu'il faut faire attention par rapport au lancement? Olivier prend la parole. Nous devons faire attention à notre communication et nous ne devons pas établir des attentes indues. Nous avons un commentaire. Brad White prend la parole. Nous avons une question ou un commentaire sur Twitter. Anthony Nagani n'est pas branché sur le Wi-Fi, mais il fait parvenir son commentaire. Est-ce que vous avez pensé à la manière dont on peut s'assurer que la prochaine série de candidatures de GTLD puisse inclure une composante de normes d'accessibilité? Brad White répond. Est-ce que quelqu'un voudrait répondre à cette question?
I would suggest...
Holly Ritchie prend la parole. Je pense que c'est un point très valable. Steve Del Bianco prend la parole. Je ne pense pas que l'on doive supposer que l'organisation qui coordonne les identificateurs uniques a l'espace suffisant pour gérer l'accessibilité. On utilise des étiquettes pour accéder au site web et c'est une préoccupation valable. Patrick Falstrom prend la parole. Nous devons séparer les différentes organisations de normalisation qui travaillent avec les normes d'accès pour les différents protocoles, comme par exemple le W3C, c'est le consortium de la World Wide Web, ou d'autres organisations. Séparer donc les choses et voir quels sont les éléments de chacun. Bien sûr, la question de l'accès présente des problèmes pour l'ICANN pour nous assurer que tout le monde puisse participer. Mais il faut que cela soit séparé par rapport à la question des identificateurs. Evan Leibovitch prend la parole. Cela me renvoie à la question des candidatures communautaires. Je pense que le processus d'évaluation des candidatures communautaires nécessite une révision autant du point de vue des critères que du point de vue de son application. Il faut réexaminer cela de façon très sérieuse. Brad White reprend la parole. Par rapport à la question qui a été posée avant, je ne sais pas qui voudra y répondre, mais quels sont les éléments qui... on a vu apparaître auxquels on ne s'y attendait pas. Steve Del Bianco, du point de vue de la communauté des entreprises, nous avons beaucoup travaillé pour nous assurer qu'il n'y ait pas trop de sociétés qui doivent présenter des candidatures pour leur marque. On leur a dit qu'ils pouvaient invoquer les mécanismes de protection des droits, mais j'ai été surpris qu'il y ait un grand nombre de marques qui décident de lancer leur propre nom de domaine de premier niveau. Environ 400 entreprises ou 500 sont finies dans l'espace des noms, ont fini dans l'espace des noms de domaines. J'ai été surpris. Il faut voir ce qu'ils vont en faire de ces domaines. Ivan Lebovitch prend la parole. Ce qui m'a surpris, notamment, ce sont les engagements d'intérêt public, la façon dont ils ont été appliqués. Dès le début, il y a eu des inconvénients par rapport à ces engagements d'intérêt public et des problèmes par rapport à ces engagements, des engagements qui étaient obligatoires par rapport à des engagements qui n'étaient pas obligatoires. La façon dont on a géré ces engagements, c'est une conséquence inattendue de ce qui s'est passé. Un commentaire des participants, Loris Schulman. En ce qui concerne la question de ne pas polariser, la question d'avancer ou ne pas avancer avec les nouveaux GTLD, je suis vraiment curieuse de savoir, côté entreprise, parce que c'est ce que je connais mieux ce qui se passe de l'autre côté de la LAC. J'aimerais donc savoir quels seraient les aspects dont il faudrait tenir compte pour de nouveaux programmes que nous reconnaissons comme des programmes qui ne correspondent pas correctement aux économies en développement. Est-ce qu'il pourrait y avoir un lancement limité au bénéfice de l'intérêt public? Steve Del Bianco prend la parole du point de vue de la communauté des entreprises. Dès le départ, l'unité constitutive des parties prenantes commerciales a eu la position selon laquelle l'ICANN devait donner la priorité aux candidatures des communautés mal desservies, notamment les noms de domaine internationalisés, c'est-à-dire les noms de domaine qui sont dans des scripts non latins ou les alphabets latins, pour nous assurer que toutes ces communautés puissent participer. Je pense que c'est une position qui est toujours valable. Et le train est déjà parti parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui auraient voulu se porter candidat pour un GTLD de marque. Et maintenant, dans cette série de remédiation dont on parle, il y aura beaucoup de pression et ce serait très difficile de lancer une série limitée pour mettre en place ce type de remédiation. Les révisions nécessaires seront mises en place dans les plus brefs délais, mais je ne pense pas que l'on puisse lancer des séries limitées à certaines communautés. Christina Rosario, Rosette, je parle à titre personnel, j'appartiens à l'IPC. Je comprends bien qu'il faut peaufiner le guide de candidature. Cela couvre des objections, le règlement de litige et à l'exception des objections juridiques. Et je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Je pense que le reste n'est pas bien fait. Je ne pense pas que la communauté soit d'accord avec ces résultats un peu bizarres que l'on pourrait voir à partir de l'interprétation des panels qui ont fait par rapport aux critères des différentes objections. Et il faut repenser au rôle d'un objecteur indépendant. Et à ce moment-là, il faudrait trouver l'occasion pour que les candidats par rapport auxquels il y a eu des objections, puissent résoudre les problèmes de conflit d'intérêts sans devoir débourser $200,000 pour venir à bout de ces objections. Brad White, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais qu'il y a toujours des questions. Il y a toujours des questions par rapport à savoir quand est-ce que la nouvelle série va commencer. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Olivier, il faut être très prudent, il faut y aller doucement. Mais peut-on y aller doucement lorsqu'il y a tellement d'enjeux? Michael Nyland, je pense que quelqu'un en a parlé. Il ne s'agit pas de vitesse, mais plutôt d'attente. Dans la réunion qui s'est tenue à Paris en 2008, le message qu'on a voulu faire passer par rapport au nouveau TLD était un vrai désastre parce qu'à ce moment-là, l'ICANN a passé un message incorrect. Les organisations de tout le monde, du monde entier, ont mal compris ce message. Rien n'était préparé pour que cela puisse avoir lieu. Donc ce que nous avons vu dans cette première série, c'est qu'il y a des compagnies, des organisations, des entreprises qui auraient eu les fonds pour pouvoir réussir à obtenir une candidature, mais qui ne se sont pas présentées parce qu'on a pris trop de temps à mettre en place les choses, et cela en raison des attentes qui n'en répondaient pas à la réalité. Et les choses ont évolué très lentement et ces entreprises n'avaient plus l'argent. Nous avons vu une candidature. On a vu ce type de problème dans certaines candidatures et cela rend difficile pour les entreprises de pouvoir arriver à mettre en place ce type de mécanisme. Il faut communiquer correctement pour que les entreprises et les organisations puissent travailler. Je pense que l'ICANN doit penser à la sécurité, la stabilité, mais aussi à d'autres choses. Mais c'est celui-là l'objectif principal pour travailler de façon sûre. Brad White, ce que tu veux dire, c'est qu'il vaut mieux aller lentement, mais aller fermement. Michael Nealon, on sait tous que l'ICANN fait très bien ce travail. Steve Del Bianco prend la parole. Brad, tu parles des journalistes. Pourquoi ils veulent une réponse pour avoir des informations à mettre à la une, dire ce sera en 2016, etc. Ma femme m'a dit, quand on revenait de l'hôpital avec mon premier enfant, on pourrait commencer à travailler au deuxième enfant. Et elle m'a dit, quand je serai prête, je vais te le dire, mais pas maintenant. Voilà. Brad White, est-ce qu'il y a des questions de la part de la salle de chat? Oui, il y a des félicitations pour Bennett Rose, qui ont été connectés, pour les gens qui se sont exprimés malgré l'absence de Wi-Fi. On parle de la prochaine série. Il y a plusieurs questions importantes dont il faut débattre en matière d'intérêt public. Par exemple, pourquoi l'ICANN a ignoré les préoccupations de la communauté de la santé concernant les non-domaines liés à la santé, et notamment avec Point Health et Point Healthcare. Cela inclut des recherches qui ont été publiées et qui exprime des inquiétudes par rapport au processus de l'ICANN. Cela concerne l'OMS, l'Organisation panaméricaine de la santé. Pourquoi cela a été ignoré par l'ICANN? Pourquoi ces questions ne figurent pas dans le programme de l'ICANN? Et comment pouvez-vous y répondre dans le cadre d'une deuxième série? Peter Netterfall prend la parole. Du point de vue gouvernemental, du point de vue du GAC, ce dossier figure dans notre ordre du jour. Nous avons un dialogue actif avec le NGPC et nous parlons beaucoup des sauvegardes émises par le GAC, notamment des sauvegardes en matière de santé. C'est une question par rapport à laquelle on continue de débattre avec le conseil d'administration. Et ce sont des dossiers qui doivent être étudiés de très près pour la prochaine série. Avant de passer à la prochaine série, Brad White, Peter, quelles seraient les trois principales préoccupations du GAC par rapport à la série actuelle? Peter Netterfall, en ce qui concerne la série actuelle, je peux parler au nom de mon gouvernement. Donc, il serait difficile d'établir des priorités. Mais je pense que dans l'ordre du jour du GAC en ce moment, nous débattons par rapport aux sauvegardes. Nous regardons de très près ce qui se passe dans la série actuelle avec les sauvegardes, comment elles sont mises en place, quel équilibre entre ce que le GAC voit comme étant un conseil en matière de politique publique au conseil d'administration et comment cet avis est mis en œuvre. Le GAC se concentre également sur certains problèmes que nous avons identifiés dans cette première série et qui devraient être pris en compte dans les séries futures, à savoir les noms géographiques, les extensions géographiques. Et ce n'est pas une surprise que cela figure dans l'ordre du jour du GAC. Et nous voulons partager notre perspective avec d'autres membres. Une autre inquiétude concerne les processus, les candidatures communautaires et la question du soutien aux candidats qui viennent des économies en développement. Voilà les points identifiés, non pas comme étant des priorités, mais comme des points intéressants à analyser en vue de la prochaine série pour voir comment on peut résoudre la question des sauvegardes. Peter, on a une question, Jason Neverson. Je viens des systèmes Adobe. Avant, je travaillais dans la propriété intellectuelle et maintenant, je travaille à l'unité constitutive commerciale. Je crois que on comprend que le processus a été lent et on a tendance à croire qu'on veut faire en sorte que les gens puissent avoir une date. Je ne pense pas qu'il s'agisse de lenteur. Je pense qu'il faut surtout qu'il s'agisse de communication opportune et claire. Nous avons beaucoup fait dans cette première série. Ce n'est pas une question de lenteur, mais plutôt d'intelligence. Je pense que si l'on veut faire la une d'un journal ou mettre un titre dans un journal, on peut dire que le panel a demandé à ce qu'il y ait des processus plus intelligents et mieux informés dans la prochaine série. Olivier Crépin-Leblanc, et j'ajouterai réaliste, parce que parfois nous n'avons pas été réalistes par rapport aux délais que nous avons établis. Nous avons fixé des délais et ensuite nous nous sommes rendus compte que le travail était trop important. Il faut voir donc le travail à faire et établir des dates ou des délais réalistes. Brad White prend la parole. Je pense que vous avez une question, une autre question. Avery Doria, je prends la parole. Je suis membre du NCSG, mais je parle ici à titre personnel. Quand on parle de la communauté, du soutien aux communautés, on a dit qu'on voulait que les communautés puissent se porter candidats pour des nouveaux GTLD. Ce qu'on a fait, c'est créer un système qui ne favorise pas les communautés. Et cela fait partie de cette paranoïa qui a été créée, selon laquelle il y aura quelqu'un qui va jouer avec le système. Quelqu'un qui va jouer avec le système, c'est le jeu finalement qui se fait parce que ce que je me demande, c'est comment nous pouvons créer un système qui puisse soutenir véritablement les communautés, qui puisse véritablement soutenir les communautés en développement, qui puisse soutenir ces joueurs, ces acteurs plus petits. En permanence, il faut penser à ce que ces grands joueurs, ces grands acteurs vont toujours murmurer, mais ce sont eux qui veulent jouer avec le système. Brad White, merci. Evan Libovitch prend la parole. Une partie de cela concerne un point soulevé par un autre orateur concernant la révision du guide de candidature. Si nous nous penchons sur la question de la candidature.gay, le soutien correspond à ce qui était demandé dans le guide de candidature. Et il faut voir donc si le processus en lui-même n'était pas correct. La communauté doit se demander si on veut revenir à ce guide de candidature et il faut tirer des enseignements de notre expérience. Je ne sais pas si cela par exemple je ne sais pas s'il faut modifier une certaine partie de ce guide de candidature ou le refaire en entier. Il faut évaluer cela avant de continuer de l'avant. Keith Brasek, merci. Je voudrais dire quelque chose par rapport à ce qui a été dit par Avery et Ivan. Il y a un changement substantiel au niveau du guide de candidature qui va correspondre à un changement de politique et non pas de mise en œuvre. À ce moment-là, il nous faudra un PDP. Et cela prend du temps. Je pense que les gens doivent être préparés pour cela. Je ne vais pas venir ici vous dire que ça va prendre 2 semaines ou... Je pense que je parle au moins de la perspective des mon unité constitutive. On n'a pas d'informations suffisantes, mais il faut commencer à débattre de cette question pour voir quel est le travail à faire. Brad, merci. Michael et Nalen prend la parole. Je pense que cette question des candidats et des autres membres de la communauté, nous voyons que cela est lié aux régions qui n'avaient pas un bon service au niveau des bureaux d'enregistrement, mais il nous faut trouver un équilibre entre l'élimination des barrières innécessaires tout en gardant la stabilité et tout en gardant des règles de jeu équitables. Nous pouvons nous retrouver dans une situation où moi, en tant que bureau d'enregistrement européen, je peux abuser d'un vide dans le système pour empêcher un entrepreneur d'une économie en développement obtienne un GTLD. Il faut travailler donc afin que tout le monde puisse avoir la même possibilité d'accès et qu'il y ait des règles de jeu équitables pour tout le monde sans qu'il y ait des barrières. Car l'Internet, c'est une ressource globale qui dépasse, qui va au-delà des gouvernements nationaux. C'est la réalité. Brad prend la parole. Tijani prend la parole. Merci. Avri avait raison. Je me souviens quand on travaillait dans le programme de soutien aux candidats, les gens nous disaient que le système allait être bypassé, détourné. Et nous avons ajouté des exigences très strictes, de plus en plus strictes, pour que le programme puisse être respecté, pour que l'on puisse pas jouer, entre guillemets, avec le programme. Mais finalement, personne n'a obtenu ce soutien. Brad White, merci Tijani. J'aimerais maintenant, si vous êtes d'accord, de passer à la deuxième partie de notre programme, à savoir le rôle des comités de développement de politique de l'ICANN, la structure actuelle, des structures de soutien et comités consultatifs fonctionnent-elles bien? J'aimerais savoir ce que vous en pensez. La façon dont notre système est structuré actuellement est-elle correcte? Fonctionne-t-elle correctement? Et pour ceux qui viennent à cette réunion pour la première fois, ce que font ces organisations de soutien? C'est développer des politiques et les comités consultatifs donnent leur avis par rapport au travail qui est fait par les organisations de soutien. Devrait-on modifier cette structure? Evan Libovitch prend la parole. Du point de vue d'Adlarge, je pense qu'on court après les choses en permanence une fois qu'elles sont déjà mises en place. Notre avis intervient après la mise en place des différents éléments. Et je pense que cette structure est adéquate. Nous avons un travail intercommunautaire de plus en plus important. Avant, les groupes de travail intercommunautaires n'existaient pas. Il n'y avait que des groupes de travail. Et je crois qu'on voit de plus en plus ce type de groupe intercommunautaire. C'est quelque chose de positif, notamment lorsque l'on envisage la participation des membres du GAC de manière précoce, par exemple. On a rencontré beaucoup de difficultés à l'ICANN liées aux intérêts publics, par exemple les ONG, les OING. Et la question est de savoir comment faire pour que le travail puisse se faire de plus en plus en amont, la participation de plus en plus en amont. Et donc, les comités consultatifs, pour que le comité consultatif puisse participer, puisse avoir la possibilité de participer quand il le souhaite, à tout moment et en amont. Heather Dryden prend la parole. En ce qui concerne les enjeux et les défis auxquels est confronté le comité consultatif gouvernemental, je soutiens ce qui vient d'être dit par Evan, parce qu'il faut essayer de respecter notre mandat, tout comme ALAC ou comme les autres comités consultatifs. Il y a beaucoup d'intérêts qui sont liés aux différents dossiers traités au sein de l'ICANN. Nous avons et nous essayons à tout moment de nous tenir au courant des derniers événements par rapport au nouveau GTLD, à ce programme de nouveau GTLD, et par rapport aux événements qui ont lieu au sein de la communauté. Et ça a été très difficile de pouvoir se concentrer sur d'autres sujets en même temps. C'est pour cela que nous essayons de nous tenir au courant. À tout moment, nous essayons de analyser la question des non-domaines géographiques dans un cadre général pour pouvoir être efficace dans notre avis. À un moment donné, on nous a accusés d'intervenir trop tard dans le processus. Et ces accusations viennent de la part des communautés qui commencent le travail. Et c'est intéressant d'analyser cela, parce que le GAC se retrouve dans une situation où aussi bien le GAC que d'autres collègues de la communauté doivent reconnaître l'importance de pouvoir accorder des priorités au travail et en tant que communauté savoir vers où nous nous dirigeons. S'il va y avoir un autre programme de GTLD, à ce moment-là, il sera nécessaire de se mettre d'accord. Oui, la communauté va se concentrer sur ses activités et ce sera très difficile d'avoir un autre programme aussi important de lancer en même temps. Et quand on se retrouve dans cette réalité de travail pour le cas du GAC, nous voyons qu'il faut pouvoir communiquer et expliquer les choses. Nos réunions sont ouvertes pour la plupart. Sauf la réunion d'élaboration du comité, de communiqué, pardon. Nous allons mettre en place un forum ouvert. Nous essayons de trouver le moyen de mieux expliquer notre travail, de mieux expliquer notre fonction. Et je ne sais pas si la façon dont fonctionnent les gouvernements et dont fonctionne le GAC est bien comprise par la communauté. C'est pour cela qu'on reçoit toujours des demandes de création de groupes de travail, etc. Et il est très difficile pour nous, de par la façon dont nous sommes organisés. Nous nous réunissons toujours en séance plénière. Tous nos membres sont là. Et donc, il est difficile parfois pour nous de pouvoir fonctionner parce que nous fonctionnons de manière différente à d'autres comités de la communauté. Nous essayons de participer le plus en amont possible au niveau des processus pour donner notre avis. Et sous la direction de Manal, nous participons à un groupe de travail pour la mise en place des recommandations pour le GAC. Et on essaye de voir comment il faut communiquer les choses, comment il faut établir les priorités. On essaye de faire un travail en commun afin de pouvoir mieux participer en amont dans ces processus. Mais ça représente un grand défi et il y a beaucoup d'engagement de notre part pour que cela fonctionne, mais ça reste une difficulté. Voilà, nous avons ces pressions sur nous et sur d'autres parties de la communauté, bien entendu. Et il faut vraiment reconnaître que nous devons nous améliorer. Brad White, je vais vous poser une question, Heather. Vous aviez bien dit que le GAC doit en général faire des consultations auprès des différents gouvernements. Et ce système de devoir confirmer auprès des gouvernements, etc., c'est quelque chose de difficile au niveau de la communication. Peut-on résoudre cela? Heather Dryden prend la parole. Il faut savoir quel est le résultat que l'on veut obtenir d'une réunion. Cela aide ce qui nous aide aussi, c'est analyser les choses du point de vue de la politique publique. Une grande partie des informations que nous voyons ou que nous recevons n'est pas différenciée. Donc on a en général tendance à nous envoyer des documents, des liens, mais il y a énormément d'informations que nous recevons et normalement les représentants ont déjà beaucoup de travail à faire et ont déjà d'autres responsabilités dans d'autres domaines, et cette information est, c'est une quantité énorme d'informations. Au sein du GAC, nous essayons de voir d'analyser beaucoup de thèmes, et c'est pourquoi il nous faut avoir recours à des experts dans certains domaines et pour pouvoir être représentant du GAC, il faut avoir un certain nombre de compétences spécialisées et il faut que les représentants puissent être vraiment qualifiés pour pouvoir aborder ces questions liées à la politique, liées à beaucoup d'autres sujets techniques, et pour pouvoir aussi se mettre en rapport avec des gens qui travaillent dans les différents pays, dans le domaine des politiques, etc. Il y a une grande partie du travail qui se fait au niveau national et il est parfois difficile de pouvoir gérer tout cela. L'ICANN a beaucoup évolué. Les gouvernements arrivent en général à un consensus quand ils dispose du temps suffisant pour arriver à un consensus. Ce consensus prend du temps. Il y a de plus en plus de participants au sein du GAC. Voilà certaines des pressions auxquelles nous sommes confrontés.
Patrick prend la parole. Je crois qu'il vaut mieux toujours parler après Heather, parce que je veux dire qu'il n'y a pas que le GAC qui doit affronter ce type de problème pour essayer de voir quelle est la vision du comité consultatif dans son ensemble avant d'émettre une déclaration. Nous avons le même problème dans le SSAC. Nous avons des membres individuels dans le SSAC qui font partie des membres et des groupes de travail qui représentent différentes unités constitutives ainsi que d'autres parties de la communauté. Ils ne peuvent pas toujours avoir peu de temps avoir peu de temps pour parvenir à un consensus. Quand nous écoutons les membres individuels du SSAC, et je m'inclus là-dessus, l'avis du SSAC peut être plus facilement aligné sur le travail que nous faisons. Donc, pour savoir si la structure actuelle fonctionne comme il faut, nous croyons que s'il faut travailler et faire un effort plus grand pour pouvoir participer de manière plus précoce aux différents processus, il faut établir des priorités, ne pas penser de façon isolée, ne pas travailler de façon isolée. Tout cela peut être fait pour améliorer notre manière de travailler. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, comme Heather l'a dit, mais si nous parlons de la possibilité de résoudre le problème, et si la question concerne cela, la réponse est oui, bien sûr, nous pouvons le faire et nous ne voyons pas pourquoi nous ne pourrions pas améliorer l'état actuel des choses. Maintenant, nous cédons la parole à Rafik Damak. Quant à ces questions, il y a un souci par rapport au processus parallèle en provenance du GAC. J'essaie de comprendre ce que l'on peut faire. La GNS aura un groupe qui est lié au GAC, il y a une liaison avec le GAC. On essaie d'avoir des agents de liaison pour que tout fonctionne de façon plus huilée, pour ainsi dire. Tout cela vient d'une expérience que j'ai eue lorsque j'ai co-présidé le groupe de travail. Et il y avait les candidats et j'étais le candidat d'un pays en développement. L'un des problèmes que nous avons vu, c'était qu'il y avait certains membres du GAC qui devaient faire partie du groupe de travail, mais ils ne pouvaient pas y participer de façon très active. Alors, ils ne peuvent pas parfois représenter le GAC en tant que structure, mais ils peuvent agir en leur propre nom. Voilà, donc, c'est une question pour Heather. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Keith Brazek? Merci. Je pense qu'une réponse directe à cette question qui apparaît sur l'écran, c'est que la structure, elle fonctionne bien sûr, mais elle peut être beaucoup plus efficace. La question que nous devons nous poser est la suivante. Que devons-nous faire ? D'une part, nous devons établir des priorités de façon plus efficace sur le travail de l'ICANN par rapport à la communauté. Il y a eu des observations sur la disponibilité de temps et la capacité pour discuter de ce dont on va discuter et pour savoir quelles sont les questions urgentes. Nous, en tant que communauté, nous pouvons mieux faire les choses en travaillant de façon collaborative, tout aussi bien au niveau des leaders qu'au niveau des différents groupes, pour établir les priorités sur le travail qui nous inquiète le plus à nous tous. Nous avons tous notre propre travail, mais il faut qu'il y ait une communication ou une collaboration plus étroite entre les différents secteurs de la communauté pour identifier ce qui est prioritaire pour nous tous. J'estime que la référence faite par Evan, je crois, en ce sens qu'il semble bien y avoir davantage d'interactions entre les différentes parties de la communauté, si on compare cela avec ce que l'on faisait il y a 3 ans ou 5 ans, bon, je crois que nous avons fait un pas en avant. Et les choses vont mieux actuellement, en ce sens-là, par rapport à ce qui se faisait auparavant. Je devrais dire que pendant la dernière année, les leaders du groupe, des parties prenantes, des comités consultatifs et des organisations de soutien, les leaders des unités constitutives ont eu des téléconférences mensuelles avec FADI et avec le personnel du plus haut niveau. Ces interactions sont vraiment précieuses. Elles nous ont aidés à éviter le travail en silo et à améliorer notre communication. Non seulement la communication de la communauté avec l'ICANN, mais entre les différentes parties de l'ICANN. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Je dois remercier FADI de cet effort fait pour maintenir ce type de communication régulière. Holly Rage prend la parole. Je voudrais rappeler ce que Madame Pritzker a dit aujourd'hui. Les citoyens font partie de ce modèle multipartite et c'est nous qui sommes là. Je voudrais soutenir ce que Evan a dit. Nous sommes une partie essentielle du processus depuis le début. Nous sommes très en retard. Si nous avons un rapport de 30 ou 40 ou 50 pages, personne ne veut réécrire quelque chose comme ça. Nous avons le temps et les ressources pour le faire. Il faut que nous participions plus précocement. Il y a beaucoup d'exemples sur nos nouveaux GTLD de choses qui n'ont pas bien fonctionné. Je pense qu'un bon exemple, Patrick, c'est que Patrick vient parler avec nous, il nous présente un document et il nous dit ce qu'il en pense. Il s'agit d'une version préliminaire du document et nous voulons lui donner l'occasion de lui dire « Bon, c'est bien de voir ce que vous avez écrit pour 3 publics différents. Ils ont utilisé tellement de sigles et d'acronymes que nous savons ce que cela signifie, mais le reste ne le sait pas. » Je crois que c'est un dialogue utile. Il dit que l'on va continuer avec ce type d'entretien pour que tout le monde puisse bien comprendre et que l'on puisse tous participer plus précocement. Il y a des points d'une petite importance concernant, enfin qui ont un peu moins d'importance, mais c'est des choses qui se rapportent aux difficultés pour les voyages et des problèmes que nous avons pour avoir des visas. Et moi, je viens de l'Asie Pacifique, je n'en peux plus d'avoir des réunions à 1h, 2h, 3h, 4h du matin. Est-ce que nous pourrions modifier les horaires, s'il vous plaît? Merci. Brad White parle pour céder la parole à Steve. Steve dit, oui, je comprends que nous voulions nous organiser, catégoriser pour donner la place à toutes les parties prenantes partout dans la planète. Cela nous a mené à avoir une structure de comité consultatif et des structures de soutien et de beaucoup de parties prenantes. Mais pour la communauté du monde des affaires, cela n'est pas faisable vraiment. Lorsque nous avons 3 lettres, CSG, est-ce que quelqu'un sait ce que cela signifie? C'est le groupe des parties prenantes commerciales. Donc une organisation de soutien au CSG doit être une organisation de soutien représentant les intérêts des différentes entreprises. Mais ce n'est pas le cas. C'est une étiquette que nous avons mise il y a 4 ou 5 ans lors de la restructuration de la GNSO. C'est une étiquette pour les 3 communautés d'affaires ou d'entreprises existantes, l'unité constitutive d'affaires concernant les titulaires de noms de domaine, l'unité constitutive de propriété intellectuelle qui cherche à protéger les marques et les fournisseurs sur les marques qui ont été contrefaites et les marques qui ne sont pas, qui sont violées, et les fournisseurs d'accès Internet et les services de télécommunication, ainsi que les fournisseurs les câbles opérateurs. C'est des intérêts qui sont très variés, lorsque nous parlons de la sécurité de nos employés, de nos clients. Cela signifie aussi que l'utilisateur ne sera pas à chercher un logiciel quelconque et qu'il reçoive un logiciel contrefait ou qu'il reçoive un email de Wells Fargo où l'on va faire de la maçonnage. Donc, il faut que nous nous occupions de protéger nos clients et que nous créions des étiquettes où il n'y ait pas qu'une organisation ou un intérêt de bonne foi. Je crois que l'on met les gens dans des catégories pour simplifier les choses, mais cela ne représente pas les problèmes auxquels doivent faire face les entreprises à l'heure actuelle. Brad White prend la parole, je crois qu'il y a un tweet. Je regrette, Brad, je n'ai pas pu résister à cela. C'est un orateur qui n'est pas intéressé, qui ne s'est pas identifié. Avery a présenté ce tweet. L'ICANN doit se centrer sur les droits de l'homme qui sont affectés par toutes les politiques. Quand est-ce qu'il y aura un comité consultatif sur les droits de l'homme? Brad White prend la parole. Nous allons aborder tout ce thème de droits de l'homme. C'est un souci dans les comités, dans les groupes des organisations de soutien. Michele prend la parole maintenant. Je crois que cela concerne plusieurs problèmes qui n'ont pas été résolus par l'ICANN. La question des droits de l'homme, de la confidentialité, de la surveillance, c'est beaucoup de problèmes qui causent des soucis à beaucoup de personnes. Moi, parce que je suis européen, moi, j'ai été face à un mur très ferme. C'était les structures de l'ICANN concernant la question spécifique de la confidentialité. C'est un thème vraiment terrible. C'est très difficile de parvenir à un équilibre sur ce thème et le GAC rencontre le même type d'obstacle. On l'a dit dans l'une des séances d'hier. Si l'ICANN doit avoir une fonction spécifique allant au-delà de ce qu'elle fait jusqu'ici, cela peut soulever des problèmes. Il faudrait savoir comment on va aborder ces problèmes sans que l'on ait l'impression de s'étendre de manière indue. Cela a été très intéressant de ce que l'on a dit aujourd'hui sur ce que l'ICANN peut être fait par l'ICANN et ce que l'ICANN ne devrait pas faire. Brad White prend la parole. Fadi, en se préparant pour cette réunion, a donné une certaine série d'entretiens avec les médias. Et il y en a une qui a été publiée avec Quartz, qui a été publiée aujourd'hui, et une autre avec d'autres organisations. Et dans les deux cas, Fadi a dit que l'ICANN a aussi des organisations et des personnes qui disent à l'ICANN qu'elle essaie de s'occuper de davantage de questions qu'elle ne devrait. Il a répondu que la solution était d'avoir un écosystème qui fasse, disons, tout ce qu'il faut pour cet écosystème. Parfois, la frustration que l'on ressent ne concerne pas les demandes d'aide, mais que cela est, disons, transféré à l'organisation qui ne doit pas s'en occuper. Maintenant, c'est Evan Leibovitch qui prend la parole. Il est très difficile d'établir ce qui concerne l'intérêt public. Chaque fois que l'on aborde ce thème particulier, qui est un thème si problématique, tout le monde essaie de donner son avis parce que tout le monde a une vision différente de ce qu'est l'intérêt public. Par rapport aux droits de l'homme, on a codifié tout cela nous avons un document, nous avons une déclaration des Nations Unies universelle qui a indiqué quelles sont les questions que nous avons appelées des questions d'intérêt public. Ce que nous voyons dans cet appel pour une inclusion des droits de l'homme, c'est que nous n'avons pas pu résoudre certaines questions liées à l'intérêt public. Et comme il est plus difficile de les aborder, il faudrait qu'on en parle comme des questions de droits de l'homme et nous pourrions là trouver un équilibre grâce à la documentation existante. Rafik prend la parole maintenant. Ma réaction sur ce commentaire, je ne pense pas qu'il s'agisse du mandat ou des groupes qui sont présents à l'ICAN pour résoudre ces questions. Je pense que cela concerne l'évaluation que l'on fait de l'effet sur les droits de l'homme lorsque nous développons des politiques. Si on parle de la confidentialité du quiz, il faut que nous tenions compte des droits de l'homme et de la protection des données. Bien des fois, l'on envoie des lettres à l'ICAN par suite de ces soucis. Et nous ne pouvons pas dire que cela fait partie de notre mandat ou cela ne fait pas partie de notre mandat. Il faut évaluer la partie des droits de l'homme comme nous faisons une évaluation d'autres aspects. Ce que dit Avry par rapport à un comité consultatif, bon, il se peut que cela soit lié à ce que fait le SSA qui s'occupe de la stabilité et la sécurité. Il donne son avis au conseil d'administration et à l'ICAN. Je crois que cela peut être fait aussi sur les droits de l'homme. Heather Dryden prend la parole maintenant. Je veux tout simplement signaler qu'il semblerait ne pas avoir de rapport entre ce que nous estimons être les droits de l'homme et la manière dont ils sont appliqués et comment sont compris les principes du droit international. Le droit de l'homme sont du ressort des gouvernements et c'est au gouvernement de préserver ses droits, y compris pour la liberté d'expression et d'autres libertés. L'ICAN est une organisation du secteur privé, il faut que nous reconnaissions ce caractère. Si nous voulons discuter au sein de la communauté sur les droits de l'homme, il me semble que c'est l'un des motifs pour lesquels cette discussion suscite tant de débats lorsque nous parlons de droits de l'homme. Patrick Falstrom prend la parole. Je soutiens ce que dit Avry et l'objectif qu'elle poursuit lorsqu'elle dit qu'il faut que la révision tienne compte de l'intérêt public. Mais il faut que nous fassions attention au nom ou à l'étiquette que nous donnons à cela, comme Heather l'a dit. Parce que si nous parlons de droits de l'homme, c'est quelque chose de très spécifique qui interdit ou oblige les gouvernements à faire quelque chose pour protéger les citoyens de chaque État. Donc ce n'est pas très clair au point de vue formel comment on doit appliquer les droits de l'homme ici, dans une organisation du secteur privé. Je crois qu'en dernier recours, nous devons voir comment nous nous conduisons et nous devons nous assurer que chacun utilise les noms des domaines pour ce à quoi ils devraient être destinés. C'est là que nous devons commencer à réviser pourquoi il y a des noms de domaines qui sont enregistrés. Et il y a un bon nombre de noms de domaines qui sont enregistrés et qui se sont engagés à traiter ou à voir toutes les questions concernant les délits ou le déni de service, les attaques de déni distribués et d'autres types d'attaques sur les systèmes qui peuvent se produire sur l'Internet. Il y a parfois des enregistrements qui permettent à certaines personnes de faire certaines choses. Donc, de quoi parlons-nous? Il faut restreindre cela à certains noms de domaine lorsqu'ils sont utilisés de manière non appropriée. On me dit que nous n'avons que 3 minutes. C'est Brad White qui a pris la parole. Je sais qu'il y a 2 autres commentaires. Nous prendrons une dernière question des personnes ici présentes. Et nous allons devoir nous arrêter pour le déjeuner, parce qu'il y a des personnes qui doivent aller dans une conférence de presse. Je m'appelle Thomas Schneider, je suis du représentant du gouvernement suisse au GAC. Je veux dire que par rapport à ce que Michael et d'autres ont dit, l'ICAN n'est pas un organe expert dans la question des droits de l'homme. Mais lorsque l'on émet des contrats pour les compagnies qui sont au sein d'un pays, et ces compagnies doivent respecter la législation, les lois nationales, et doivent respecter aussi les droits de l'homme, et ces entreprises doivent signer ces contrats, et cela les pousse à commettre des actes illicites pour des questions qui se rapportent à d'autres régions. Il faut parler de cela au début du processus pour être sûr qu'il n'y aura pas de clients ou des entreprises qui se trouveront dans une situation où, à la fin du processus, ils auront des situations où ils sont beaucoup plus inefficaces pour demander des exonérations pour pouvoir respecter la législation, les lois locales. Nous devons tous nous assurer que le droit international et même les droits de l'homme seront présents dès le début. Parce qu'après, il est beaucoup plus onéreux de résoudre ou de modifier tout cela à la fin du processus. Il y a une réunion qui est ouverte mercredi entre 1h15 de l'après-midi et 2h dans l'une des salles qui se rapporte justement à la question des droits de l'homme. Vous pouvez tous y participer. Brad White prend la parole, Heather a un commentaire. Nous allons essayer de clore cette séance. Mais je vous demande de continuer à envoyer des tweets parce qu'ils peuvent faire partie du registre de la salle de chat d'Adobe. Heather Ryden prend la parole. Dans le monde actuel et dans la série actuelle des GTLD, nous savons, beaucoup d'entre nous, que le GAC a un contrôle opérationnel spécifique comme une partie du programme qui devait être une partie du programme où l'on donnait son avis sur des domaines de haut niveau, de premier niveau sensible ou controversé. Comme les notions de droit de l'homme, telles que, par exemple, le droit d'expression, et font partie de cet ensemble de droits de l'homme. Je ne sais pas si l'accent doit être mis sur le GAC ou si les avis ou les décisions prises par le GAC au sein du programme se rapportent à cette responsabilité de droit de l'homme au lieu de se centrer seulement sur les décisions prises par l'ICANN comme une organisation. Brad prend la parole, Holly, Steve, et nous allons finir. Holly prend la parole, ce n'est qu'une petite correction. Je pense que l'on ne devrait pas parler d'un document de laisser sac. Je crois que cela se rapporte à la sécurité de l'ICANN. Si j'ai dit quelque chose qui n'a pas été utile, je m'excuse. Steve prend la parole, oui. C'est bien d'aborder la question de l'intérêt public parce que notre PDG vient d'annoncer il y a 2 heures qu'il y a un nouveau cadre d'intérêt public concernant la mission de l'ICANN et la coordination des identificateurs. La communauté du monde des affaires a identifié cela et a dit que c'était un très bon point de départ pour le débat et que cela serait dans l'intérêt public de l'ICANN et dans l'intérêt public mondial dans le mandat de l'ICANN qui était lié à l'intégrité et à la responsabilité dans les enregistrements. Parce que les réglementations sont des identificateurs de coordination. Il faut qu'il y ait des étiquettes qui soient présentes dans toutes les langues, dans toutes les écritures, 24 heures sur 24, 7 heures sur jour 7, pendant toute l'année. L'intégrité, qu'est-ce que ce serait qu'un titulaire de nom de domaine et le droit juridique pour avoir un nom de domaine et que les résolutions de l'intégrité signifient que moi je clique sur une adresse électronique ou une site web et que je vais là où il faut que j'aille. Tout ce que nous ferons au-delà de ceci qui concerne la disponibilité de l'intérêt public mondial va au-delà de notre mandat. Il faut que nous fassions donc très attention à ce que nous faisons. Nous allons donc, Brad White prend la parole, nous allons remercier toutes les personnes présentes d'être ici parmi nous. Je vous demande de continuer à communiquer avec nous et de nous dire ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché et s'il faut que nous continuions à faire cela dans l'avenir. Nous attendons vos commentaires. Merci beaucoup.